Bonjour à tous.
Amen. Donc ce matin, nous voulons parler de la résurrection de Jésus. Mais je voudrais rappeler qu'il y a 3 jours, nous parlions de sa mort, de sa crucifixion. Mais sa crucifixion était émanée de beaucoup d'étapes de souffrance. On avait des souffrances physiques, on avait des souffrances psychologiques, des souffrances émotionnelles et des souffrances aussi psychologiques et spirituelles même. Et toutes ces étapes de souffrance par lesquelles Jésus est passé n'étaient pas liées à un accident ou ce n'était pas un plan B que le Seigneur était en train de prendre pour accomplir une action particulière. Mais toutes ces étapes et toutes ces souffrances étaient donc liées à la souveraineté de Dieu. Donc chaque souffrance, chaque étape, bien que nous voyons l'action des hommes, la main des hommes en train d'intervenir là-dessus, mais c'était la souveraineté de Dieu qui conduisait chaque étape de souffrance par lesquelles Jésus est passé. Mais ces étapes de souffrance finies par sa crucifixion, donc sa mort à la croix, révélait quand même l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc Jésus souffrait pour chacun de nous. Il souffrait pour moi et il souffrait aussi pour toi. Son sang à la croix a coulé pour moi, pécheur que je suis. Son sang à la croix a coulé aussi pour toi. Donc c'était le plan de Dieu que Jésus puisse mourir à la croix. Et cette souffrance qui manifestait donc sa souveraineté, nous avions dit et nous avions vu qu'elles s'étaient accomplies de façon parfaite parce qu'elles étaient inscrites dans les Écritures. Pas parce que les Juifs étaient fatigués, le Sanhédrin était fatigué, Pilate était fatigué. Pas parce qu'on a livré Jésus, mais parce que Dieu l'avait prévu. Donc la mort de Jésus à la croix, sa souffrance, était prévue donc dans le plan de Dieu. Et ce matin, nous voulons voir qu'il n'est pas resté donc dans le tombeau. Il n'est pas resté dans la mort, mais il est ressuscité. Et quel est l'impact de cette résurrection-là pour nous aujourd'hui? Et nous appuyons donc sur la série d'études que nous faisons dans le livre de Jean. Donc nous partons du chapitre 20, du verset 1 au verset 18. Donc repartis sous 2 blocs que je voudrais qu'on puisse regarder ce matin. Du verset 1 au verset 10 et du verset 11 au verset 18. Donc du verset 1 au verset 10, nous voyons que le tombeau est vide. Une résurrection qui serait attestée donc par les disciples. Et du verset 11 au verset 18, le ressuscité qui est vivant et qui entre en relation, en communication, je dirais même en communion avec ceux qui mettent en lui leur confiance. Lisons la première portion de notre texte. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Donc dans cette première portion, lorsque nous regardons donc les 2 premiers versets, on nous dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc Marie de Magdala, quand on regarde un peu l'histoire de Marie de Magdala, on nous dit que c'est la femme qui avait 7 démons que Jésus avait chassés. Ça, clairement, c'est ce que la Bible nous dit là-dessus. Notamment, des interprétations ou encore la culture ancienne peut-être va la nommer comme prostituée et tout, mais bibliquement, Marie de Magdala, quand on parle d'elle de façon claire pour nous, c'est qu'elle avait 7 démons qui ont été chassés par Jésus. Donc, je vais juste m'arrêter à là. Donc, partant de cette dame-là qui a eu cette expérience avec le Seigneur, on se rend compte qu'elle a une expérience personnelle avec lui. Et Marie de Magdala se rend donc au sépulcre. Mais qu'est-ce qu'elle y va faire? Elle va voir celui qui l'a délivré. Elle va voir celui avec qui elle a une relation particulière. Elle va pour l'embaumer. Les autres évangiles nous parlent d'autres femmes qui étaient avec elle, dont Jeanne, dont Marie, la mère de Jacques. D'autres femmes qui étaient avec Marie de Magdala. Mais ici, Jean braque sa caméra particulièrement sur Marie de Magdala. Donc, tôt le matin, elle se rend au sépulcre pour honorer celui avec qui elle a marché, pour honorer celui avec qui elle avait de l'affection, pour honorer celui avec qui elle a eu une délivrance spirituelle parce qu'elle était possédée. Donc, elle va honorer celui-là. Elle va reconnaître ses bienfaits. Certainement, pour elle, c'est un souvenir. Certainement, pour elle, c'est de rendre à Jésus ce qu'il lui a fait. Mais pas au Jésus vivant, mais au Jésus mort. Donc, dans la tête de Marie de Magdala, selon la culture, elle va embaumer le mort. Et tôt le matin, elle le fait. Et elle se déplace pour pouvoir y aller. Parce que certainement, Jésus avait transformé sa vie. Parce que certainement, elle a connu une grande libération spirituelle. Parce que certainement aussi, elle était attachée à lui. Marie de Magdala était celle-là même à la crucifixion. Était à la croix aussi, avec la mère de Jésus. Donc, elle assistait. Elle était celle-là même aussi qui assistait Jésus pendant son ministère. Donc, on voit une femme qui est impliquée, qui est engagée dans le service, dans le ministère avec Jésus. Et c'est celle-là, dans la continuité, donc se retrouve donc au sépulcre pour pouvoir donc honorer son maître, honorer son Seigneur. Alors, elle est frappée par un constat. Le premier constat qu'elle fait, c'est que la pierre est roulée. Le sépulcre est ouvert. Tôt le matin, pendant que le temps est encore obscur. Donc, cela l'interpelle. Deuxième remarque, non seulement le tombeau est ouvert, s'il était encore ouvert et que le mort était là-dedans, au moins, elle pouvait être rassurée. Mais là, le mort n'est pas là-dedans. Donc, Jésus n'est pas dans le tombeau. Elle est troublée. Non seulement elle est troublée, mais elle est aussi attristée. Non seulement elle est attristée, mais elle accuse. Elle cherche des réponses, elle cherche des solutions. De façon, ce n'était pas coutumier de voir que le tombeau était ouvert. Ce n'était pas coutumier de le voir. Si ça arrivait, c'est que c'est un cambriolage. Si ça arrivait, c'est que c'est un vol. Parce que de nos jours, dans certains endroits, après un enterrement, quand vous allez voir, les tombes sont brisées, cassées, et puis les gens vont prendre tout ce qu'il y a, objet de valeur, ou tout ce qui accompagne le mort. Les gens vont le prendre. Ils font de ça leur business. Alors, elle est troublée. Et quelle est la démarche, donc, qu'elle mène? La démarche qu'elle mène, elle va courir pour aller avertir, donc, les disciples. L'absence de Jésus dans le tombeau trouble Marie de Magdala ou encore Marie-Madeleine. Donc, elle avertit les disciples. En l'occurrence, Pierre et le disciple que Jésus aimait. Donc, le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Ok, donc il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Donc, elle annonce cela à Jean et à Pierre. Aussitôt qu'ils ont l'information, ils vont courir. Ils vont aller plus vite pour aller constater, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement, eux aussi, quand ils se déplaçaient, pour eux, c'est que le corps a été volé. C'est que le mort a été enlevé. Mais pour faire quoi? Le mort a été enlevé parce que là où Jésus passait, il y avait des réactions. N'oublions pas que lorsque Jésus a été mis au tombeau, on nous dit qu'il était gardé. Le tombeau était gardé et puis l'ordre avait été donné aux soldats et aux gardes de veiller à ce que les disciples de Jésus ne viennent pas prendre son corps. Mais les disciples de Jésus qui étaient supposés venir prendre son corps ne sont pas venus prendre son corps. Et on va leur dire que le corps a été enlevé. Alors il y a un problème. Jean va courir plus vite que Pierre. Peut-être certainement à cause de son âge ou certainement à cause de sa capacité de vitesse. Il arrive le premier au tombeau. Mais il arrive au premier au tombeau pour vérifier. Il va rester plus loin pour observer. Peut-être il est en réflexion. Peut-être il n'a pas l'audace d'entrer dans la sépulcre, au sépulcre pour voir ce qui est dit. Donc de loin, il va observer et il va effectivement constater que les bandes de Jésus sont à terre. Alors va arriver Pierre, plus audacieux que Jean, qui va entrer pour observer. Tandis que Jean observe de loin et apprécie de loin pour certainement décider quoi faire, Pierre, audacieux qu'il est, sans calcul, il va rentrer et il va commencer par observer. Non seulement il va voir ce que Jean a vu, c'est-à-dire le linge qui était par terre, mais on nous dit aussi qu'il voit l'élément, le tissu, le pagne, le suaire qui a été utilisé pour mettre sur la tête de Jésus. Non seulement il voit cela, mais il se rend compte que c'est soigneusement plié. Alors Jean va prendre courage pour rejoindre Pierre. Mais lorsque Jean prend courage et il rejoint Pierre, quelque chose se passe dans la vie de Jean. Donc celui qui était hésitant, celui qui appréciait de loin et qui n'avait pas l'audace de pouvoir entrer, mais découvre sur le champ, effectivement, qu'il y a un élément important. Moi qui croyais que le corps avait été enlevé, parce que j'observais de loin, parce que je ne m'approchais pas, pendant que je m'approche et je regarde, je me rends compte que le corps n'a pas été enlevé et qu'il y a une chose particulière qui s'est passée. Lorsqu'il regarde, on nous dit qu'il vit. Et il crut. C'est Jean qui rend son témoignage ici, on pourrait le dire. Il vit et il crut. Il n'est plus resté éloigné de l'action. Il n'est plus resté éloigné de la vérité. Mais il s'approche de la vérité suite à l'encouragement de Pierre. Et il voit effectivement que ce n'était pas un enlèvement. Il voit effectivement qu'il y a une action particulière qui s'est passée. Il voit effectivement que Jésus est ressuscité. Parce qu'il est confronté à la vérité. Et cette confrontation face à la vérité, effectivement, incline son cœur. Et il dit, le disciple que Jésus aimait vit et il crut. Parce qu'il était en face de la vérité. Mais quelle est l'action de Pierre? Mais lorsqu'on se souvient de Pierre, on se demande, est-ce que Pierre veut faire un rattrapage? Est-ce que Pierre se remet en cause? Donc c'est parce qu'il se remet en cause, il rentre avec toute son audace. Je ne veux pas dire sans réfléchir, mais parce qu'il veut voir ce qui est arrivé à son maître. Mais il le fait certainement parce que Pierre se souvient. Il se souvient qu'au troisième chant du coq, il était couvert de honte. Il se souvient qu'au troisième chant du coq, il avait renié son maître. Il se souvient qu'au troisième chant du coq, il était lui aussi dévasté. Et cette fois, il ne veut pas rater l'occasion. Et on nous dit à la fin de ce passage-là, à la fin du passage, on nous dit « Et les disciples s'en retournèrent chez eux. » Mais c'est les disciples qui étaient venus, je dirais, avec toute la force pour voir « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a enlevé le corps ?» Ils vont retourner chez eux, plus calmes. Le verset 9 nous montre un peu la réaction ou les réactions des disciples. Et notamment celui de Pierre, de Jean. Il dit, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Quand bien même que les Écritures abondamment avaient parlé, quand bien même étant avec Jésus, il leur annonçait qu'il allait passer par des moments difficiles, qu'il allait être maltraité et qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour. Et pendant que Jésus était en train de dire cela, Pierre le fougueux va l'appeler à côté et puis va lui dire, non, maître, ne dis pas ces choses. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Donc toutes ces paroles étaient dites. Mais à cet instant précis, les disciples n'étaient pas encore prêts. À cet instant précis, ils avaient même oublié effectivement toutes ces paroles parce qu'ils n'étaient pas prêts. Les Écritures annonçaient cela. Certainement qu'ils ont lu les Écritures, ils ont entendu, Jésus même le leur a dit, mais leur cœur ne comprenait pas encore ce que les Écritures disaient. Donc on peut en être en face de l'Écriture. On peut la lire abondamment, mais des fois on va la lire comme un roman. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour nous faire comprendre. Amen. Et à cet instant précis, en face de la vérité, ils se sont rendus compte que Jésus-Christ est ressuscité. Leur esprit s'est ouvert pour comprendre, même si leur foi n'était pas, je dirais, parfaite. Mais ils avaient compris qu'en ce moment précis, Jésus-Christ était ressuscité. Par la suite, on nous dit qu'ils s'en retournent chez eux. Lorsqu'on regarde la deuxième portion de notre test, à partir du verset 11, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. Donc on voit ici, l'élément qu'on peut voir ici dans la démarche de Marie, de Magdala et puis les autres disciples, elle leur a annoncé, certainement ils retournent chez eux. Donc on se demande, en retournant chez eux, certainement qu'ils n'ont pas croisé Marie. Pour le lui dire, ah ben effectivement, celui que tu as dit, ce n'est pas un enlèvement, mais c'est plutôt une résurrection, comme il nous l'avait dit. Jésus est ressuscité. Certainement qu'ils ne l'ont pas rencontré. Mais elle est seule devant le tombeau, mais pleurant, toujours attristée, toujours dans la douleur, dans la peine. Et on nous dit, pendant qu'elle pleure, il y a deux anges qui sont assis l'un à la tête, l'un au pied, là où était Jésus. Mais son chagrin fait qu'elle n'observe pas. Son chagrin fait qu'elle ne se rend pas compte de ces hommes qui sont resplendissants. C'est-à-dire, c'est pas là son intérêt. Mais elle est portée vers sa peine. Des fois, nos chagrins, nos peines peuvent nous faire ne pas voir la main de Dieu qui pourtant est avec nous. Tellement on est tourné dans nos peines. Nous sommes portés, je dirais, sur nos douleurs. Nous sommes aveuglés par cela. Et on n'a pas le temps de voir la main de Dieu. Mais ici, Dieu, par la présence des anges, donnait un signe à Marie. Mais je suis là. Pour dire qu'il n'a pas été enlevé. Mais elle ne pouvait pas le comprendre. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Et simplement, elle répond, parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Nos larmes peuvent nous empêcher de reconnaître l'œuvre de Dieu. Même quand il s'agit, même quand Dieu agit devant nous. Et c'était le cas de Marie, de Magdala. Elle était triste, dans l'amertume, dans la douleur, cherchant qui a enlevé son Seigneur et son Maître. Pendant que elle est dans cette peine, pendant que elle est aveuglée par sa douleur, sa peine manifestait toute l'affection qu'elle avait pour son Seigneur, pour son Maître. On nous dit, c'est alors que le Maître lui-même va l'appeler. On dit, pendant qu'elle se retourne, elle voit quelqu'un. Mais c'est celui qui était couché dans le tombeau qu'elle voit. Mais elle ne peut pas le reconnaître. Parce que sur ses yeux, il y avait des écailles. Elle ne pouvait pas le reconnaître. Alors elle le prend pour le jardinier de la place. Elle ne le reconnaît pas. Mais le Seigneur ne pouvait pas laisser tomber cette affection-là qu'elle avait pour lui. Le Seigneur ne pouvait pas la laisser dans cette douleur, dans cette souffrance. Alors il va se révéler à elle. Il va se révéler à elle en l'appelant par son nom, en voulant bâtir une relation aussi avec elle. Et il va l'appeler par son nom. Et à chacun de nous, Dieu veut nous appeler par nos noms. Marie, c'est alors qu'elle reconnaît que c'est son Seigneur et son Maître. Marie, je t'appelle, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Donc, il y a un changement qui apparaît. Quand elle reconnaît que c'est le ressuscité qui l'appelle, quand elle reconnaît que ce n'est plus celui qui est dans le tombeau qui l'interpelle, parce qu'elle cherchait un mort. Mais comme on l'a chanté tout à l'heure, et comme les anges le disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, le vivant. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Mais il n'est plus dans le tombeau. Là, il vit. Donc c'est le ressuscité vivant qui appelle Marie maintenant. Marie, je ne suis plus dans le tombeau. Mais je suis vivant. Je suis vivant pour toi, pour rebâtir une nouvelle relation avec toi. Je suis vivant pour repartir même à zéro avec vous. Alors, quand elle le reconnaît, certainement qu'elle veut s'empresser à l'embrasser. Elle veut s'empresser à le toucher. Il dit, stop. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais je vais te confier une mission. Je vais te confier une mission. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères que je vais vers mon Père. Et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais en le disant, Jésus renouvelle ou donne une orientation nouvelle dans ses rapports avec ses disciples. Donc dans ses rapports avec vous et moi. On se souvient dans Jean 15:15, Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. » Mais lorsqu'il s'adresse ici à Marie, il est en train de dire, « On a dépassé le stade de l'amitié. Va dire à mes disciples qui ne sont ni mes amis, ni mes serviteurs du moins, ils ne sont plus mes amis, mais en plus de cela, ils deviennent mes frères. » Donc, ils sont mes serviteurs, mais des serviteurs qui sont mes amis et des amis qui sont mes frères. Donc, je les établis au même titre comme cohéritiers avec moi. Donc, il est en train de dire à Marie, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père parce que il est aussi votre Père. Et comme il est votre Père, vous pouvez vous approcher de lui comme un Père. Et comme il est votre Dieu également, vous pouvez vous approcher de lui comme un Dieu. Donc il est en train d'établir ici une relation bien heureuse. Non seulement pour l'instant T, mais pour l'éternité. Une relation qui va durer avec les disciples, avec ceux qui croient en lui, ceux qui mettent en lui leur confiance. Oui, comme nous l'avions dit, tout ce processus était fait parce que Dieu l'a voulu. Tout cela est intégré dans la souveraineté de Dieu. Et comme j'aime le dire, rien ne le surprend. La mort de Jésus à la croix n'a pas surpris Dieu. Au contraire, ça surprit les dominations. Ça surprit les principautés, les autorités. La Bible dit que s'ils avaient su que la mort de Jésus venait pour apporter la délivrance même à l'humanité, pour nous purifier de tout péché, ils n'allaient pas être crucifiés. Donc rien ne le surprend. Donc la résurrection de Jésus n'a pas surpris Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas un plan parallèle. Mais parce que les Écritures l'avaient prévu, parce que Dieu l'avait prévu. Le sang versé à la croix ouvre une nouvelle relation avec Dieu. Mais Marie, dans tout ce processus, va recevoir donc une mission. Elle va aller annoncer. Elle va annoncer aux disciples. Donc elle est la première qui va porter le message de la résurrection aux autres. Amen. Elle est la première qui va faire connaître cela. Comment on peut voir une femme qui certainement brisé, peut-être sans espérance. Une femme, peut-être qui avait une vie difficile à cause de la charge démoniaque, certainement qu'elle avait. Comment Jésus va la positionner pour qu'elle puisse annoncer la bonne nouvelle? J'essayais de faire un rapprochement des trois, c'est-à-dire Marie, Pierre et Jean. Marie manifestait un amour fidèle. Et la limite qu'elle avait, c'est que toute son affection était portée sur le mort. Et Jésus va apporter sa délivrance là, en l'appelant par son nom, pour bâtir une relation personnelle avec elle, une nouvelle relation. Donc elle a une rencontre particulière, personnelle avec le ressuscité. Et Dieu voudrait aussi que nous, nous puissions avoir une rencontre particulière aussi avec lui. C'est lui le ressuscité. On peut être brisé. On peut avoir de l'amertume, découragé, abattu. Mais Dieu veut une relation personnelle avec lui. Parce que Jésus est le ressuscité. Jean courant plus vite, arrivant plus vite au tombeau, par l'audace de Pierre, a été encouragé à entrer dans le sépulcre pour voir, pour observer. Pour observer, pour voir effectivement qu'il y avait une vérité. Jésus-Christ était ressuscité. On nous dit quand il vit, il crut. Sa foi n'était certainement pas parfaite, mais il a vu. Et il a cru que Jésus-Christ est ressuscité. Et comme la chorale a chanté tout à l'heure et dans les cantiques qu'on a vus, il ne pouvait pas rester plus de 3 jours. Et je pourrais même ajouter que la terre était trop chaude. Le corps de Jésus était trop chaud. La terre ne pouvait pas retenir Jésus. Certainement que les entrailles de la mort étaient en train de dire, mais qu'est-ce que lui vient faire ici? Ce n'est pas sa place ici. Comment Dieu qui vit au ciel, il va venir vivre à terre? Et non, non, ce n'est pas sa place ici. Changement de cadre, changement de lieu. Il ne peut que ressusciter. Donc on a vu la foi de Pierre, de Jean. Pierre, quelqu'un qui était certainement couvert de honte, parce qu'il a renié son maître. Mais c'est lui qui aura l'audace de pouvoir proclamer devant les Israélites cette résurrection-là. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, pour nous aussi, Jésus est ressuscité. Amen. Et notre espérance en Christ, l'apôtre Paul le dit, si c'est juste dans ce monde-là, notre espérance est en Christ, c'est que notre foi est vaine, c'est que nous avons tout perdu, ça vaut même pas la peine. Notre espérance est dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Christ est notre résurrection. Christ est notre Pâque. Et en lui, on peut se confier. Et je veux dire à quelqu'un que tu peux te confier au Christ ressuscité. Quelles que soient les préoccupations, quelles que soient les guerres dont on parle, quelles que soient les expériences personnelles par lesquelles nous passons en ce moment, où nous pourrons passer, quelles que soient les épreuves, Christ est ressuscité pour nous. Et il bâtit avec une relation nouvelle. Pour finir, la résurrection de Jésus faisait pleinement partie du plan souverain de Dieu. Elle n'est pas un plan B. Elle a été annoncée par les Écritures. Et elle a été accomplie aussi parfaitement. La puissance de Dieu a triomphé de la mort. Et par la résurrection de Jésus, Dieu nous introduit dans une relation bienheureuse et éternelle avec lui et avec le Père. Nous n'avons plus besoin de chercher le vivant parmi les morts, parce qu'il est ressuscité. Victoire sur la mort, victoire pour l'éternité. Alors si tu es avec nous ce matin, que tu n'as pas fait la paix avec Jésus, que tu n'as pas encore expérimenté cette grâce dont a bénéficié Marie de Magdala, cette grâce dont a bénéficié Jean, cette grâce dont a bénéficié Pierre, ce matin, il te tend aussi la main. Le ressuscité te tend aussi la main. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité pour te donner la vie. Il est ressuscité pour que tu aies de l'espérance. Il est ressuscité pour toi aussi. La mort de Jésus à la croix, nous l'avions qualifiée d'humiliante. Nous l'avons qualifié d'atroce, de difficile. Et nous avons conclu que c'est le plan de Dieu. Mais Dieu permet cela parce qu'il t'aime. Dieu a permis cela parce qu'il veut une relation avec toi, une intimité avec toi. Alors si tu n'as pas eu l'occasion de faire cette démarche, il te donne l'occasion aujourd'hui de pouvoir le faire. Tu peux simplement prier dans ton cœur. Dire au Seigneur que tu reconnais que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Dire au Seigneur que tu reconnais que tu as besoin de lui. Il dit, se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, il entre pour souper avec toi, mais pour partager avec toi, pour partager une intimité avec toi. Il ne vient pas pour que tu puisses être riche. Il ne vient pas pour que tu puisses avoir de grandes maisons, de belles maisons ou quoi que ce soit. Il peut le faire. Et il va le faire même. Mais il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, ce matin, je te bénis. Je te dis merci pour le rappel que tu nous fais de ta résurrection. Seigneur, c'est toi qui es venu mourir à la croix pour nos péchés. Ta parole déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Merci pour ton sang versé pour moi. Merci pour ton sang versé pour mon frère, pour ma sœur ici présente. Merci pour ta résurrection aussi à la croix pour nous, Seigneur. Ta résurrection du moins du tombeau. Merci pour ta fidélité. Père, ce matin, nous voulons prier pour toute personne au milieu de nous qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui te cherche. Nous voulons te prier afin que dans ta grâce, Seigneur, tu l'attires à toi. Merci de fortifier et merci de bénir dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen.